Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue au Mardi de la mémoire. J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui François-Régis Le Grier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous publiez aux éditions Via Romana un petit livre. Nous parlerons peut-être de son format qui est original et très sympathique. Saint-Louis, modèle des chefs d'État aux éditions, donc Via Romana. Chez notre cher ami Benoît Mancheron, que je salue et j'ai toujours plaisir à recevoir ses auteurs. C'est une maison d'édition audacieuse, courageuse et qui, comme Radio Courtoisie, vit toujours. Peut-être que le secret de la survie de nos médias, que ce soit notre radio ou bien cette maison d'édition, eh bien, c'est justement la qualité, l'originalité et l'audace. Et François-Régis Le Grier, vous venez publier cet ouvrage en cette année 2026, qui est une année anniversaire pour Saint-Louis.
Oui, tout à fait. Donc c'est le 800e anniversaire du sacre de Saint-Louis, qui a eu lieu le 29 novembre 1226. Louis, âgé de 12 ans, à la mort de son père Louis VIII le Lion, qui meurt après 3 années de règne au retour de la croisade des Albigeois. Et donc le jeune Louis monte à ce moment-là sur le trône et inaugure un règne de 44 ans.
Alors, c'est très bien finalement de commencer par ce point d'histoire qui est souvent oublié ou méconnu, mais on ne peut pas tout connaître, qui est le fait que Saint-Louis succède à un règne extrêmement bref, celui de son père qui ne dure que 3 ans, ce qui veut donc dire que son père est mort, et donc la personnalité de cette femme, elle, qui va survivre à l'histoire, qui est Blanche de Castille, est éminemment écrasante par rapport à l'autorité paternelle, puisque Saint-Louis n'a pas de père. À 3 ans, il est orphelin de père et donc il va vivre effectivement avec une mère qui est à la fois sa mère, la régente, la gouvernante. Et donc c'est une situation finalement éminemment contemporaine qu'un jeune enfant élevé par une mère.
Oui, alors pour se remettre un peu dans le contexte de l'époque. D'abord, au tout début, Louis n'était pas appelé à régner parce qu'il avait un frère aîné, mais qui est mort vers l'âge de 9 ans, je crois. Et donc, lui est devenu en quelque sorte l'héritier. Il avait 4 ans, donc il est né en 1214. Il a connu son grand-père Philippe Auguste et il est né d'ailleurs l'année de la fameuse bataille et la victoire de Bouvines. Et c'est, je crois, l'un des rois de France, en tout cas à cette époque, à avoir connu son grand-père, ce qui a dû certainement forger quelque part aussi son caractère, son tempérament, son éducation. Effectivement, son père, Louis VIII le Lion, va régner très, très brièvement. Il meurt de maladie, comme je le disais en introduction, au retour de la croisade des Albigeois, à Montpensier, à la frontière du Bourbonnais et de l'Auvergne. Mois de novembre 1226. Et en mourant, le roi Louis VIII laisse comme consigne à ses barons, ses proches, de sacrer au plus vite le jeune Louis. Et donc sa femme, Blanche de Castille, va tout faire pour organiser le plus rapidement possible ce sacre. Alors pourquoi une telle rapidité? Le caractère héréditaire de la monarchie n'est plus remis en cause à cette époque. Vous savez qu'on est passé d'une monarchie un petit peu élective à une monarchie héréditaire depuis Hugues Capet. Mais il y avait cette crainte que les barons prennent en quelque sorte le pouvoir, et non pas pour destituer le jeune roi, mais pour s'arroger concrètement l'exercice du pouvoir. Blanche de Castille est une femme qui a un sens politique remarquable. Elle prend de court donc tous ses grands féodaux, tous ses grands vassaux, et en 3 semaines, elle organise non seulement les funérailles de son défunt mari, l'adoubement du jeune chevalier à Soissons et le sacre du roi, donc le 29 novembre à Reims. Et elle prend ainsi de court tous les barons. Et avec beaucoup d'habileté, elle ne sera non pas régente, mais elle va assurer la baillie ou la tutelle du pouvoir en attendant l'âge de la majorité fixé à 21 ans. Et avec, avec beaucoup d'habileté, elle va associer le jeune enfant à l'exercice du pouvoir très, très rapidement, se montrant avec lui, co-signant les actes royaux, voire laissant à Louis le soin de signer certains actes. Et le fait est qu'on ne connaît pas de date précise de passation de pouvoir entre la mère et son fils, mais indéniablement, cette mère, Blanche de Castille, a eu une influence déterminante sur l'éducation à la fois morale et politique du jeune roi.
Alors, beaucoup de choses passionnantes, François-Régis Le Grillet, dans ce que vous venez de nous dire. J'ai été amusée, en regardant un peu les dates des uns et des autres, de voir que Philippe Auguste était né à Gonesse et mort à Mantes-la-Jolie. Quand on voit ce que c'est maintenant que cette région-là, on a du mal à imaginer que c'était cette île de France, était le berceau des Capétiens.
Oui, Louis est né à Poissy, s'il revenait à Poissy aujourd'hui, je serais un peu surpris.
Ouais, il est revenu par l'intermédiaire de reliquaires, puisqu'il y avait eu une très très belle cérémonie à Poissy avec les reliques de Saint-Louis organisées par le diocèse de Versailles, puisque la cathédrale de Versailles est la cathédrale Saint-Louis. Mais effectivement, on est dans des lieux qui ne nous parlent beaucoup. C'est d'ailleurs étonnant ce grand saut qui a été fait et cette chape posée à la fois par les châteaux de la Loire puis par Versailles ou par ce qu'on devrait appeler les châteaux de la Seine, ce grand chapelet de châteaux qui suivent les méandres de la Seine, Saint-Germain-en-Laye et Versailles évidemment, mais Saint-Cloud et là on a totalement déplacé dans notre histoire,
dans notre imaginaire, hein, et dans
Alors, le mot pardon, mais le mot imaginaire est peut-être pas le bon parce que c'est vraiment de l'histoire, c'est pas de l'imagination, mais c'est vrai que on a placé les Capétiens dans cet univers-là alors que leur univers était beaucoup plus au nord ou bien à l'ouest de l'Île-de-France.
Oui, il était déjà même au cœur de Paris puisque c'était le Louvre qui était l'habitation des rois de France, Vincennes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on retient le château de Versailles quand on pense à la monarchie, mais on devrait d'abord penser peut-être au Louvre et à Vincennes, ou à l'abbaye de Royaumont qui doit beaucoup à Saint-Louis également. Et puis tous ces villages d'Île-de-France que vous avez cités.
Oui, bien sûr. Oui. En tout cas, dans votre livre, François-Régis Le Grillet, vous signalez de façon très intéressante cette histoire du passage entre la monarchie élective, la monarchie héréditaire et surtout l'hérédité accomplie, enregistrée, définitive, qui est assez tardive puisque Hugues Capet est élu en 987, Louis IX, donc le futur Saint-Louis, sera sacré en 1226. J'ai fait un petit compte, ça fait 239 ans.
Oui, c'est ça.
Et il faut attendre Philippe Auguste pour que il y ait la possibilité que le simple fait de la mort du roi entraîne inévitablement la succession de son fils sans qu'il y ait eu sacre conjoint, puisque je rappelle à nos auditeurs que longtemps, le roi en titre était sacré conjointement avec une autre forme de, entre guillemets, de petit sacre pour son fils.
J'ai souhaité effectivement rappeler ce qu'était la monarchie capétienne à cette époque, pour se faire une idée exacte du pouvoir de Saint-Louis. Ce n'est pas la monarchie absolue de Louis XIV, ce n'est pas non plus la féodalité que l'on a pu connaître sous les Carolingiens, par exemple, au tout début des Capétiens. C'est une monarchie féodale. Louis, le roi, a autorité complète sur le domaine royal qui a été multiplié par 4 par Philippe Auguste. C'est autant de ressources qui viennent alimenter et consolider le pouvoir royal. C'est très important de bien comprendre ça, parce que Louis hérite d'un royaume, il y a certes encore beaucoup de difficultés, mais néanmoins, d'un point de vue matériel, la survie de l'État et du royaume capétien est vraiment maintenant bien, bien assurée grâce à tous les rois de France, mais principalement à Philippe Auguste. C'est une monarchie féodale. Louis ne va pas chercher à éradiquer la féodalité, mais il va vraiment chercher à en limiter les pouvoirs et à la subordonner au pouvoir central. C'est vraiment très important de comprendre ça. Et donc, toutes ces ordonnances, ces édits vont s'appliquer de façon directe sur le domaine royal et de façon indirecte chez les grands vassaux. Il sera aidé en cela tout particulièrement par son frère Alphonse de Poitiers, qui va dans son territoire répercuter en quelque sorte les décisions de son frère Louis. Un autre point sur lequel il me semble important d'insister, c'est effectivement ce caractère héréditaire qui, donc, depuis Philippe Auguste, n'est plus remis en cause. C'est vraiment important. Et puis l'alliance avec l'Église, qui peut être source de confusion. C'est une alliance, mais ce n'est pas une soumission. Ce n'est pas une théocratie. Et le royaume de France n'est pas un vassal de l'Église, contrairement à d'autres royaumes qui payent un tribut à Rome. Je pense au royaume du Portugal, par exemple, dont le roi sera déposé par un pape. Je pense également au royaume de Hongrie, d'une certaine manière le royaume d'Angleterre, le Saint-Empire romain germanique qui sera en conflit perpétuel avec la papauté, mais dont l'empereur Frédéric sera déposé en 1245 par le pape, inimaginable en France. Voilà. Il y a une véritable alliance avec l'Église, c'est indéniable, mais il y a aussi une indépendance et la monarchie capétienne, comme c'est Jacques Bainville le ramasse en une formule très bien, s'écarte, enfin, déteste autant la féodalité que la théocratie. Et tout le travail de Louis, c'est vraiment de consolider la souveraineté du royaume, on appellerait aujourd'hui la souveraineté de l'État.
Alors nous allons revenir évidemment au sacre et puis à l'objet de votre livre qui est dont le titre est Saint-Louis, modèle des chefs d'État, puisque vous étudiez dans votre ouvrage où vous nous donnez à nous, hommes et femmes du XXIe siècle, des clés de compréhension de ce que pouvaient être dans ce XIIIe siècle les notions d'autorité, de justice, de pouvoir, de responsabilité, de service. Voilà, autant de questions qui sont toujours les nôtres. Hein. C'est un livre de grande actualité, évidemment. Je ne l'ai pas dit, mais Saint-Louis est né en 1214, il est mort en 1270. Il monte donc sur le trône, nous venons de le dire, en 1226, où il va être sacré très vite. Et il a la particularité, alors je ne me suis pas amusée à regarder pour tous les rois de France s'il y avait une autre concordance, mais il a la particularité d'avoir un chiffre qui lui est associé qui correspond à son rang de roi. Il est Louis IX, oui, et il est le 9e capétien. Oui. Ce qui est, à mon avis, je ne sais pas si ça se reproduit. Il faudrait regarder ou il faudrait demander à ChatGPT qui cherchera plus vite que nous. Si vous le voulez bien, François-Régis Le Grillet, je vais prendre une toute petite minute pour en faire la liste à nos auditeurs. Donc il y a Hugues Capet, évidemment. Et puis ensuite, on a Robert II, Henri Ier, Philippe Ier. Et puis là arrive cette particularité, mais qui sera le fait de tous nos rois de France, s'inscrire dans une longue lignée qui associe les Carolingiens et les Mérovingiens. Et donc voilà un Louis qui ne va pas être Louis Ier, mais qui sera Louis VI. Et ce qui va donc permettre ensuite un Louis VII, un Philippe II Auguste, un Louis VIII et un Louis IX. Et donc Louis IX est le 9e des Louis et le 9e des Capétiens.
Et ce qui est amusant, c'est vraiment pour l'anecdote, mais les rois de France, à cette époque, avaient pour habitude de donner à leur fils aîné le prénom, à leur fils, le prénom de leur grand-père. Voilà, donc, oui, c'est ça. Donc, par exemple, Louis VIII, le Lion, appelle son fils aîné Philippe, c'était lui qui était destiné à régner, il va mourir, et le second s'appelait Louis, donc le prénom de son père, et on retrouve cet agencement assez régulièrement.
Eh oui. Donc voilà, c'est un petit hasard, voilà. Et évidemment de l'histoire et des titulatures, mais comme à plusieurs reprises j'ai vu écrit le 9e roi capétien, tout d'un coup je me suis dit, mais est-ce qu'effectivement c'est vrai ? qu'il est bien le 9e roi capétien, et c'est effectivement le cas. Alors, ce Saint-Louis, tout le monde, je pense, connaît un peu la vie de Saint-Louis, il y a eu beaucoup de livres, il y a eu le grand historien de Saint-Louis que fut Jacques Le Goff. Il y a d'ailleurs, j'ai vu aux presses universitaires, je crois, de Rennes, un ouvrage publié par une jeune universitaire qui s'appelle Saint-Louis après Jacques Le Goff, parce que je pense que c'est toujours utile de refaire un point d'historiographie. Je pense qu'il y a des recherches, des travaux inévitablement qui sont faits. Et vous-même, d'ailleurs, dans votre livre, vous montrez bien certaines, à vos yeux, imprécisions ou mauvaises compréhensions ou interprétations qui ne vous semblent pas tout à fait justes de la part de Jacques Le Goff.
Oui, pour avoir lu un certain nombre, je ne les ai pas tous lus, mais pour avoir lu un certain nombre d'ouvrages et de biographies sur Saint-Louis, ce que j'ai retenu, c'est que tous retiennent, mettent en avant à peu près les mêmes faits, et les sources primaires sont à peu près les mêmes, donc c'est pas étonnant. Et ensuite, chacun doit un peu se distinguer pour justifier une biographie qui vient après tant d'autres, et donc les appréciations sur le roi, sur ses décisions, sur son règne, évidemment, varient selon les auteurs. À l'évidence, la biographie de Jacques Le Goff est la plus complète. C'est vraiment une somme. Mais il m'a semblé que parfois, Jacques Le Goff, c'est pas étonnant, passait un petit peu à côté d'éléments qui me semblent essentiels, c'est-à-dire le rôle fondamental de la foi. Non pas qu'il le mette de côté, il le souligne, il le décrit même avec énormément de détails, les pratiques de piété, l'accueil de la couronne d'épines, etc. Mais il fallait aller vraiment au fond des choses, et c'est ce que j'ai souhaité vraiment faire sur ce plan spirituel, et montrer que ce règne de Saint-Louis bien connu, on connaît la justice de Saint-Louis, qui est un peu le cœur de son action, la justice et la paix. Et le cœur du cœur, si vous voulez, c'est sa foi, mais encore faut-il arriver à montrer un petit peu comment. Et donc j'ai souhaité insister particulièrement sur l'assistance à la Sainte Messe, bien sûr, mais aussi sur la récitation des psaumes que Saint-Louis récitait quotidiennement pendant ses 44 années de règne. Pour moi, c'est une clé de compréhension, parce que si vous pratiquez un tout petit peu la lecture des psaumes, vous verrez que 90 ou 99% des psaumes de l'Ancien Testament parlent de la justice divine. Et donc, quand vous les récitez quotidiennement, ça opère en quelque sorte une dilatation de l'âme, et qui va être une force agissante dans les décisions politiques de Saint-Louis. C'est ce qui explique aussi, j'emploie un mot de notre époque, mais sa politique sociale vis-à-vis des plus pauvres. C'est à Saint-Louis qu'on doit la création des hôtels-dieux, notamment. Lui-même pratiquait l'aumône très régulièrement, il soignait les malades et en particulier les lépreux. Et j'ai souhaité aussi donc mettre l'accent sur sa proximité avec les ordres mendiants, les dominicains qui sont très présents dans l'entourage du roi, et aussi les franciscains. Et il m'a semblé, c'est un avis tout à fait personnel, que sa proximité était encore plus grande avec saint François d'Assise, qu'il n'a pas connu, puisque saint François, dont nous fêtons le 800e anniversaire de la mort, donc meurt justement quelques semaines ou quelques mois avant que le sacre de Saint-Louis. Mais en revanche, Saint-Louis a très bien connu saint Bonaventure, qui était le patron, le supérieur général des franciscains. Et saint Bonaventure écrit une première biographie de saint François en 1260. Et donc on peut très supposé, je pense que Saint-Louis, quelque part, en a eu connaissance. Et sa façon de faire avec les pauvres et les malades est tellement proche de Saint-François que, pour moi, il s'est vraiment identifié à lui. Et c'est également vrai dans sa mort à Tunis. Il va mourir allongé sur un lit de cendres, les bras en croix, en récitant les psaumes. Et Saint-François d'Assise meurt dans le même dénuement. Il est allongé à même le sol. Il donne, comment dire, ses derniers enseignements à ses fidèles, en leur demandant d'être, comment dire, de continuer son œuvre, d'être vraiment fidèle à l'enseignement du Christ. Et Saint-Louis fait exactement la même chose avec son fils, d'ailleurs. Donc il y a un parallèle qui est assez saisissant et même très émouvant.
Bien sûr, alors je précise à nos auditeurs que lorsqu'ils nous entendront, cette émission a été préenregistrée le jour de l'arrivée, si je ne me trompe pas, du pape Léon XIV en Algérie, et que je ne peux pas ne pas faire de parallèle entre ces deux pays, l'Algérie et la Tunisie, qui ont été le berceau d'une chrétienté commune hein, autour de la Méditerranée. C'est-à-dire que, bien sûr, lorsque Saint-Louis meurt à Tunis, on est après l'islam et après de nombreuses années d'islamisation de cette région. Mais on est dans des terres semblables qui ont été baignées par une chrétienté des plus grands. Et Saint-Louis, qui était beaucoup plus proche d'eux que nous ne le sommes, le savait bien.
Oui, il le savait bien. Et le choix de... On fait un bond chronologique et on revient sur la fin du règne, mais le choix de Tunis pour la 8e et dernière croisade est source de nombreuses interrogations. D'un point de vue politique, il est vrai qu'on a du mal à l'expliquer et les explications justement des différents historiens m'ont laissé un peu perplexe. Certains disent qu'il se serait fait en quelque sorte un peu embobiner par son frère Charles d'Anjou, roi de Sicile, qui avait un différend à régler avec le roi de Tunis pour une affaire d'argent, et donc ainsi qui aurait ainsi orienté cette croisade. Bon, en 1270, Louis n'est plus le jeune roi qui a 12 ans, il a plus de 40 années de règne. Alors, certes, il a une foi très vive, mais je ne pense pas qu'il soit naïf à ce point. Voilà, il y a d'autres explications qui courent. Moi, politiquement, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Et pour moi, l'explication, la clé, elle est plus au niveau spirituel et vraiment surnaturel. Jérusalem a toujours été un objectif chez Saint-Louis. Il laisse un royaume qui est vraiment en paix, qui est en ordre. Et donc, il a ce vif désir de repartir en croisade qui est incompréhensible chez ses plus proches. Joinville ne le suit pas. Il dira même que ceux qui ont conseillé au roi de repartir en croisade ont fait un péché mortel. Mais quelque part, c'est un peu là, si je peux me permettre un parallèle, on retrouve aussi parfois la même incompréhension entre le Christ et ses apôtres. Voilà. Donc il y a un moment où, effectivement, d'un point de vue très temporel, très politique, les choses ne se comprennent pas, mais voilà, il faut passer au-dessus. Et donc ce choix de Tunis, peut-être que Saint-Louis avait le désir de convertir le roi de Tunis, c'est fort probable, c'est même certain. Il y avait aussi, je pense, ce désir de retrouver la terre de Saint-Augustin, et cette terre de vieille chrétienté, puisque aujourd'hui on assimile à tort... L'Europe a une terre chrétienne et puis l'autre rive de la Méditerranée, le Proche-Orient, a une terre musulmane. Mais c'est oublié que tous les premiers siècles de l'Église, toutes ces terres étaient chrétiennes.
Bah, alors, non seulement on a un long passé commun, mais il est commun aussi dans les périodes d'expansion, nos premiers martyrs sont concomitants. Nos martyrs de Lyon sont concomitants de leurs martyrs de Carthage. Et ça, on l'a oublié parce que les siècles ont passé et que l'histoire nous a séparés. Donc c'est certain, mais c'est bien de le rappeler et c'est bien de pouvoir le dire aujourd'hui où effectivement la présence de Léon XIV en Algérie sera, je l'espère...
Féconde.
Exactement, ouais. Il faut le souhaiter. Alors vous avez parlé de Joinville, François-Régis Le Grier. On pourrait peut-être faire une petite parenthèse sur lui pour parler un peu quand même de ce personnage dont Jacques Le Goff déjà le disait, avec lui vous le redites, le vrai Saint-Louis, il est dans Joinville. Joinville n'a pas écrit qu'une hagiographie avec des inventions. Non. Il a perçu... parce qu'il l'a côtoyé, le vrai Saint-Louis.
Oui, Joinville est plus jeune que Saint-Louis. Il est sénéchal de Champagne. Il va faire connaissance du roi dans les années 1239, 1240, lorsque Louis doit faire face à une nouvelle révolte de barons. Donc il va faire campagne. Ce sera notamment la fameuse bataille de Taillebourg en juillet 1242. Et donc Joinville l'a connu juste avant, il va le suivre jusqu'à sa mort, et il y a une amitié profonde entre les deux hommes. Et Jacques Le Goff, qui a un esprit critique assez, comment dire, assez caustique parfois, il ne ménage pas son Saint-Louis, il a parfois des propos assez, assez durs, même si au fond on sent qu'il l'aime bien, mais il accorde beaucoup de crédit au témoignage de Joinville, qui pourtant a été écrit bien après la mort du roi. Et pourquoi ? Parce que on sent qu'il y a beaucoup de, on sent que c'est pas retravaillé plus que ça. Il y a beaucoup de fraîcheur dans le récit de Joinville, et il ne cache rien des défauts du roi. Et il rapporte un certain nombre d'anecdotes qui ne sont pas toujours à l'avantage de Saint-Louis sur ses coups de colère, sur sa façon d'être, et il va même une fois le prendre en défaut, ou en quelque sorte, Saint-Louis revient de son séjour en Terre Sainte, on est en 1254, donc il arrive dans le midi de la France, il va remonter, et puis on lui offre un très beau cadeau, un très très beau cadeau. Et là, Joinville note, quand c'est pour les autres... il le prend un peu en défaut, vous voyez. Enfin, quand il s'agissait des cadeaux pour les autres, Saint-Louis était beaucoup plus rigoureux. Il a même fait une ordonnance en 1254 qui réglementait de façon très stricte les avantages matériels, les cadeaux qu'on pouvait avoir pour limiter la corruption chez les fonctionnaires royaux. Voilà, donc il est sans ménagement vis-à-vis du roi, et en même temps on sent plus qu'une amitié, une profonde estime, un profond respect. Il raconte énormément d'anecdotes, pas toutes les citer, mais il y en a qui sont drôles, d'autres qui sont plus émouvantes. J'en pense une qui est assez amusante. Il raconte cet épisode c'est au Parlement, donc Saint-Louis descend avec une partie de son conseil et croise une femme assez en colère qui commence à l'anglais, à lui dire qu'il est un mauvais roi, etc. Donc vous imaginez ça aujourd'hui, tout de suite vous avez le GIGN qui se déploie, voilà, vous ne pouvez pas dire un mot sans être mis de côté. Et donc il la laisse parler, et il va presque à s'excuser de ne pas être à la hauteur de sa tâche, et de dire, écoutez, oui, si la Providence avait pu nous donner un meilleur roi, ça aurait été formidable, mais écoutez, c'est moi qui suis en fonction, donc il va bien falloir faire avec. Il lui donne une bourse avec 40 sous, et puis il la renvoie gentiment. Vous voyez, il y avait cette proximité qui a été longtemps une caractéristique aussi des rois capétiens, une bonhomie, une proximité avec le peuple. Alors, ils ne sont pas élus, c'est une charge héréditaire, mais ils sont certainement beaucoup plus proches du peuple que beaucoup de nos décideurs politiques aujourd'hui, qui ne se déplacent pas sans un cortège de sirènes hurlantes dans Paris, ou avec des barrières de sécurité, ou avec 300 gendarmes et des hélicoptères, etc. Et cette bonhomie, c'est vraiment la marque des Capétiens, en tout cas à cette période-là, cette proximité avec le peuple, et puis cette acceptation de se faire parfois effectivement un peu engueuler. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant.
Puis pardon de vous interrompre, mais c'est aussi le paradoxe du temps long, c'est-à-dire que quand vous savez que vous avez le temps long, vous êtes prêt à accepter qu'il se termine demain. C'est très paradoxal, mais alors c'est ça la foi. Mais vous voyez ce que je veux dire, je pense qu'on se rend bien compte que ces hommes savaient très bien que leur vie pouvait s'interrompre demain, d'abord parce qu'il y avait les maladies, parce qu'il y avait la violence et l'insécurité qui étaient aussi très très présentes dans leur temps, mais en même temps ils avaient l'éternité pour eux, pour une autre dimension. Et dans votre livre, j'ai particulièrement aimé ce va-et-vient que vous faites à la fois dans votre ouvrage et qui correspond au va-et-vient que fait Saint-Louis dans sa vie, c'est-à-dire qu'il est le roi, il est le roi sur terre, il est un roi terrestre, il est complètement incarné, pas du tout, c'est pas un professeur tournesol, bien au contraire, mais quand il a le sentiment de la mission accomplie, alors il peut s'autoriser à s'intéresser à l'essentiel. Et donc à partir, et on le sent bien quand il part en 1270, finalement, il a l'impression qu'il a presque accompli sa tâche.
Oui. Vous avez raison, mais Le plus important, c'est presque que Saint-Louis, enfin les rois de France, et Saint-Louis l'a porté à un degré de perfection supérieur, c'est la raison pour laquelle il est saint, c'est qu'il rend compte, non pas, enfin il rend compte au peuple, non, en fait il rend compte à Dieu, et c'est encore plus important, c'est parce que quand vous rendez compte au peuple, vous, ou, comme un conseil d'administration, vous maquillez les comptes, vous faites un peu de cinéma, et puis emballer, c'est peser. Saint-Louis, c'est pas possible, il va rendre compte au Christ de son action, et donc il a cette, il a ça en permanence sous les yeux, il sait que s'il fait mal son devoir, lui ira en enfer. Voilà. Donc il a cette volonté perpétuelle de faire en sorte que d'accomplir au mieux son devoir d'État, de se sanctifier à travers son devoir d'État, et c'est un moteur beaucoup plus fiable que de se présenter tous les 4 ou 5 ans finalement devant les électeurs. Et encore une fois, ça n'empêche pas, bien au contraire, de cette proximité avec le peuple. Vous avez parlé du temps long, rien ne se fait en 2, 3, 4 ans, c'est vraiment une règle politique, je pense, immuable. Et si vous me permettez juste pour nos auditeurs dire, voilà, ce règne de 44 ans, il faut bien comprendre que quasiment les 20 premières années du règne, elles sont dédiées à l'affermissement du pouvoir royal à l'intérieur. Vous voyez, ça prend du temps. Il y a des campagnes, il y a des traités vis-à-vis de... Il y a aussi toute la politique étrangère entre le Saint-Empire et l'Église qui sont en dispute permanente. Voilà, et vous avez l'intermède de la croisade et du séjour en Terre Sainte, hein, de 1248 à 1254. Et puis ensuite, les 15 dernières années du règne, qui, là aussi, sont plus dédiées, encore une fois, à la paix intérieure, à la paix au sein du royaume. Donc c'est la grande ordonnance de 1254. La paix à l'extérieur du royaume, c'est, entre autres, le traité de Paris en 1259. Ce qu'on appelle aussi le dit d'Amiens, c'est intéressant. Après les années 1260, c'est... le roi d'Angleterre qui est en dispute avec ses barons, les deux parties viennent trouver Saint-Louis et lui demander d'arbitrer entre les deux. C'est inimaginable aujourd'hui.
Bien sûr.
Inimaginable. Aujourd'hui, c'est le roi de France qui va se prosterner à Bruxelles, à Washington et ailleurs.
Alors François-Régis Le Grillet, nous allons nous interrompre pour le fameux bobino de Radio Courtoisie. Je voudrais juste préciser aux auditeurs que 44 années de règne, c'est comme si François Mitterrand avait cessé d'être président de la République l'année dernière, 1981, 2025, 44 ans. Donc c'est, voilà, essayer de se remettre un peu l'échelle des temps contemporains dans notre tête.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, soutenez Radio Courtoisie, elle approche de ses 40 ans, c'est une grande dame mature, pas autant que le règne de Saint-Louis qui a duré 44 ans, mais quand même pas loin, elle a besoin toujours de votre aide. Si vous voulez continuer à écouter les émissions que nous vous proposons. Et aujourd'hui, nous parlons de Saint-Louis, modèle des chefs d'État, à l'occasion de la parution chez Via Romana d'un ouvrage, et j'ai le plaisir de recevoir son auteur, François-Régis Le Grillet. Nous parlions de Joinville, du vrai Saint-Louis, un portrait physique de l'homme. Je sais qu'il y a une église en Normandie qui posséderait une statue réalisée au plus près de la vie de Saint-Louis, mais est-ce qu'on peut un peu le portraiturer ?
Oui, alors on n'a pas grand-chose, donc il y a ce portrait que vous évoquez, il y a également... je crois, à la Sainte-Chapelle, un médaillon, un vitrail qui représente Saint-Louis, son frère Alphonse de Poitiers, portant sur un brancard la Sainte-Couronne, mais c'est très, très stylisé, donc c'est difficile de se faire une image. On a des témoignages de ceux qui l'ont croisé, et au physique, Saint-Louis est plutôt bel homme, il est grand, il est élancé, il a beaucoup de prestance, il a du charisme, dirions-nous aujourd'hui, c'est indéniable. Et il a aussi il est très grand en taille. Ça, on le voit notamment au débarquement de Damiette en 1249. il se jette à l'eau, il dépasse tous les autres croisés de moins de tête. Enfin, c'est assez impressionnant et c'est même pour tous les chevaliers qui l'accompagnent, c'est extrêmement stimulant de voir leur roi qui est quand même assez costaud, voilà, se jeter en première. C'est vraiment un roi féodal, hein, il ne faut pas l'oublier. On ne verrait évidemment plus ça aujourd'hui, même les rois suivants n'ont pas toujours été comme ça. Mais lui se lance comme son grand-père Hugues Capet, il est dans la mêlée, on le voit à la bataille de Taillebourg, et puis ça joue de l'épée bien comme il faut. Donc voilà, il a ce tempérament très, très, très vaillant. Sur le plan du caractère et sur le plan moral, oui. C'est quelqu'un qui a un tempérament très, plutôt colérique, hein, qui est capable de s'emporter assez fort et qui va accomplir sur lui tout au long de son existence un travail sur soi extrêmement fort pour arriver à dompter une nature assez ardente. Ça, c'est un très bel exemple pour tout un chacun. Il sait concilier, et c'est vraiment ce qui est le plus fort, il sait concilier dans l'exercice de son autorité à la fois le prestige royal qui convient à sa fonction et à la fois une présence auprès de tous. Et si vous me permettez de détailler un petit peu, alors cette présence, elle est effective au niveau de son conseil, mais vous avez des rois ou décideurs qui peuvent être très, très durs, très cassants ou très distants, y compris avec leur entourage proche. On ne trouve rien de tel chez Saint-Louis. Et d'ailleurs, il va savoir s'entourer de gens d'une très grande compétence, de différentes classes sociales. Mais vous avez parmi les conseillers de Saint-Louis deux qui vont finir pape quand même. C'est pas rien. Voilà. Vous avez Joinville, bien sûr. Donc cette présence, elle s'étend à ses conseillers, à sa famille, parce que Saint-Louis ne négligera pas ses devoirs familiaux vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis de ses enfants. Joinville raconte qu'il était, le plus possible, en tout quasiment tous les soirs, quand il le pouvait, il leur racontait les faits de leurs ancêtres pour les éduquer, les tirer vers le haut. Cette proximité, elle s'étend avec le peuple, on en a déjà parlé un petit peu. Et il était très proche aussi de ses soldats. On a des témoignages quand il est en Terre Sainte. Il va au milieu d'eux pour les aider à relever les murailles des différentes villes fortifiées de Terre Sainte. C'est un travail plutôt ingrat. Il fait en sorte de racheter tous ceux qui étaient captifs encore en Égypte. Et pour aller même au bout de tout ça, il a une vraie proximité avec les morts. Et on a également ce témoignage de Terre Sainte où une garnison chrétienne se fait massacrer par les Mamelouks. Saint-Louis arrive quelques jours après avec un détachement. Les corps sont déjà en train de se décomposer au soleil, donc le spectacle n'est quand même pas très ragoûtant. Et Saint-Louis va mettre pied à terre et va commencer lui-même à ensevelir les corps, donnant en cela l'exemple à tous ces chevaliers qui, pour la plupart, auraient sans doute fait rapidement demi-tour et fuient ce spectacle, encore une fois, difficile.
N'était pas forcément très raisonnable d'un point de vue de l'hygiène quand on est le roi de France, parce qu'on risquait d'attraper des maladies. J'en profite pour dire à nos auditeurs que Saint-Louis n'est pas mort de la peste. Hein. Il est mort, on dit toujours qu'il est mort de la peste à Tunis, il est mort de dysenterie.
C'est plutôt la dysenterie.
Enfin, c'est ça. Oui. Bah, c'est quand même même chose.
Oui. Hein. Oui, mais on a des témoignages aussi où il va soigner lui-même les lépreux, donc il prend des risques.
Bien sûr, oui.
Donc, vous voyez, ce tempérament moral, ce tempérament et puis ce caractère, il est, si Saint-Louis n'avait pas été saint, il aurait été certainement un très bon roi, puisqu'il a des qualités de chef d'État, il sait décider, il sait trancher, il sait faire la guerre quand il le faut. Mais il n'aurait pas porté à un degré suréminent, en fait, ses qualités. Et le fait d'avoir, encore une fois, tourné son regard vers le Christ-Roi l'a conduit à cette maîtrise de lui-même qui est parfois rare chez les rois de France, notamment sur le plan conjugal.
Bien sûr. Alors, Saint-Louis, dont nous parlons aujourd'hui avec François-Régis Le Grillet, puisqu'il publie chez Via Romana Saint-Louis, modèle des chefs d'État, à l'occasion du 800e anniversaire de son sacre. Nous allons évidemment parler du sacre pour expliquer à nos auditeurs comment cela s'est passé et puis quel a été... l'état d'esprit dans lequel on vivait au XIIIe siècle, ça. Je voudrais juste préciser à nos auditeurs que la statue dont nous parlions est dans l'église de Maineville, M-A-I-2-N-E-V-I-2-L-E. C'est en Normandie. Et j'ai fait une petite recherche quand même. Elle est rarement ouverte. Elle fait partie d'une espèce de comment on appelle ça, mais de rassemblement de paroisses ou de communautés de paroisses, je ne sais pas si c'est le mot à employer. En tout cas, j'ai vu que le samedi 16 mai à 18h30, elle serait forcément ouverte parce qu'il y a une messe anticipée du dimanche. Donc, je ne vous invite pas nécessairement à aller à la messe anticipée du dimanche, mais en tout cas, j'imagine qu'au moins une demi-heure avant, l'église sera ouverte. Si vous voulez aller voir cette statue, on dit que c'est la seule statue en France qui date de quasiment du XIIIe ou du XIVe siècle et qui serait faite au plus près. Parce qu'il y a une statue dans la cathédrale de Sens qui relate évidemment le transfert de la couronne d'épines, mais elle est beaucoup plus tardive. Enfin, je ne sais pas de quand elle date, mais elle est beaucoup plus tardive. Alors, ce sacre, François-Régis Le Grillet, à l'occasion de l'anniversaire du dernier sacre du dernier des rois de France, c'est-à-dire Charles X en 1825, donc en fait on était, si je sais bien calculer, 700 ans après le sacre de Saint-Louis. À cette occasion, j'avais évidemment fait plusieurs émissions et nous avions parlé de l'évolution quand même du sacre. Les rois de France ont perpétuellement repris le cérémonial, l'ont un petit peu adapté, ont fait quelques modifications. Comment est-ce que l'on sait comment ça s'est déroulé? D'abord, c'était à Reims, déjà.
Alors, c'était à Reims. Et la cathédrale de Reims était elle-même en construction, ou en reconstruction, plus exactement. Alors, je n'ai pas trouvé énormément de détails, savoir à quel stade elle en était. On peut supposer qu'elle était encore à... vu la date, encore un peu à ciel ouvert, et donc on a dû monter des tentes, des chapiteaux à l'intérieur pour organiser cette cérémonie. Le sacre est une cérémonie longue. Je crois qu'on n'a pas le détail de l'ordonnancement exact de cette époque. On l'a pour plus tard, mais on peut imaginer que c'est assez, assez similaire. Il y avait peu de barons présents, ça a été souligné par tous les chroniqueurs. Alors, la rapidité est sans doute plus un prétexte. Voilà, certains soulignent un peu l'animosité d'une partie des grands féodaux. Peu importe. Ce qui compte, c'est que le roi soit sacré. Et moi, j'ai vraiment voulu m'attacher à redonner la signification politique et spirituelle de ce sacre, puisque les deux sont intimement liés. Et rappeler que c'est bien le sacre plus que l'hérédité qui confère au roi sa légitimité à gouverner. Et au cours de ce sacre, donc vous avez devant les grands du royaume, donc il y a six grands seigneurs et six évêques, ils sont 12 en tout, donc vous avez ce serment du royaume que je vous lis, hein, donc le jeune roi qui dit « Je promets au nom de Jésus-Christ, au peuple chrétien qui m'est soumis, premièrement de faire conserver en tout temps à l'Église de Dieu la paix par le peuple chrétien, donc une exigence de paix, d'empêcher toute rapine et iniquité de quelque nature qu'elle soit, de faire observer la justice et la miséricorde dans les jugements, afin que Dieu, qui est la source de la clémence et de la miséricorde, daigne la répandre sur moi et sur vous aussi. » Et enfin, une dernière phrase qui a été rajoutée à l'occasion du sacre de Saint-Louis, « de bannir entièrement de mes états tous les hérétiques condamnés par l'Église. » Toutes lesquelles choses ci-dessus dites, je confirme par serment qu'ainsi Dieu et les saints évangiles me soient en aide. Donc c'est la feuille de route, voilà, véritablement de Saint-Louis. Et je voudrais insister également sur une des grandes oraisons du sacre qui parle donc de cet écoulement de la grâce divine sur le roi. C'est vraiment important à bien retenir. Et c'est ce qui fait que Saint-Louis vit son autorité, exerce son autorité à l'image du Christ avec ses apôtres, c'est-à-dire qu'il a à la fois une présence et un exemple. Il faut noter également la cérémonie des onctions, qui est un héritage direct de l'Ancien Testament. Lorsque le peuple juif se donne un roi, c'est Samuel qui va être choisi, Saul, qui va être choisi, et donc c'est le prophète Samuel qui va oindre le premier roi d'Israël. Et donc cette cérémonie des onctions, donc c'est de l'huile sainte, c'est la même que l'on utilise pour les sacrements de confirmation, par exemple, et à laquelle on rajoute une goutte de la sainte ampoule, donc, dont la tradition dit qu'elle a été apportée par une colombe au moment du baptême de Clovis, ce qui fait le lien donc avec... Entre les différentes dynasties du royaume, et donc les Carolingiens, et puis bien sûr les Mérovingiens. Tout ce cérémonial, qu'est-ce qu'il montre au fond? Il montre que l'autorité est d'essence divine et qu'elle est instituée pour établir et servir le bien commun et non pas comme pour être un instrument d'asservissement et de pouvoir.
Alors François-Régis Le Grier, nous allons parler de cette notion de service qui, le mot est très laid, mais qui transpire de votre ouvrage. Hein. C'est vraiment, je pense, une des choses qui fait le plus la différence avec nos hommes politiques actuels. Mais je reviens un tout petit peu sur le sacre parce que je pense que le propre de nos âges, de nos vies, c'est d'apprendre que rien n'est vraiment linéaire et qu'on a besoin de se remettre en cause perpétuellement et en histoire également. Et le fait d'avoir travaillé sur le sacre de Charles X m'a fait comprendre certaines choses sur Louis XVIII, qui est un roi que j'aime pas beaucoup, et peut-être à tort, parce que en fait Louis XVIII, qui n'a pas été sacré, a beaucoup réfléchi sur son sacre. Et en fait, il n'a pas refusé de se faire sacrer comme ça. D'abord, il y avait des questions économiques, des questions de date, ça a été beaucoup reporté, mais il a beaucoup réfléchi sur son sacre. Et en fait, d'après ce que je comprends, il s'est quand même beaucoup rendu compte que c'était un problème quand on était un roi. Ce n'était pas vraiment un roi constitutionnel, mais il y avait une charte. On lui demandait de prêter serment sur des articles de la charte. Et est-ce qu'un roi de France, au sein d'un sacre dont la sacralité, la spiritualité et le cœur même du cérémonial, est-ce qu'il pouvait faire ça? Et voilà, je trouve qu'en fait, je me suis rendu compte d'une réflexion de la part de Louis XVIII qui n'est pas du tout une réflexion à balayer d'un revers de la main.
Oui, alors, je ne sais pas, c'est, peut-être que ça rappelle aussi le refus de prendre le pouvoir du comte de Chambord, d'une certaine manière. Moi, je crois que les Capétiens étaient quand même des gens très pragmatiques. Quand Hugues Capet, avec l'appui de l'évêque de Reims, prend le pouvoir, c'est que les Carolingiens, pardonnez-moi l'expression, mais font plus le job. et donc, il faut quand même quelqu'un pour exercer le pouvoir. Et après, voilà. Donc, je pense qu'il ne. Il me semble que dans le. Encore une fois, dans l'exercice du pouvoir, et il faut cette dose de pragmatisme. Et moi, je regrette, alors Louis XVIII, je connais peut-être moins, mais je regrette que, par exemple, le comte de Chambord se soit finalement retiré des affaires sous le prétexte du drapeau blanc. Je pense que jamais Hugues Capet n'aurait fait ça. Il aurait pris le drapeau qu'on lui donnait et après il se serait débrouillé pour assurer
le rendre
son
blanc.
Autorité, le rendre blanc s'il le fallait.
Je rappelle que le sacre de Louis IX, Saint-Louis, était le 29 novembre 1226, que nous en commémorons ou nous en célébrons le 800e anniversaire cette année, et que François-Régis Le Grier, avec qui je m'entretiens aujourd'hui au Mardi de la Mémoire sur Radio Courtoisie, vient de publier chez Via Romana « Saint-Louis, modèle des chefs d'État ». Alors ce Saint-Louis, ce modèle des chefs d'État, il a véritablement conçu, est-ce que ça a été une évidence pour lui ou un travail sur lui-même ou un approfondissement de sa mission que ce service dont on sent qu'il est essentiellement mis au profit de la justice et de la paix. Enfin, c'est vraiment un homme qui cherche ça.
Alors, rappelons encore une fois aussi ça, le rôle clé de sa mère, hein, Blanche de Castille, à qui il doit énormément sur ce plan de l'éducation morale et politique. C'est la ligne directrice de son règne, et il y va avec les difficultés inhérentes à toute action politique. Donc rien n'est facile, rien n'est linéaire, il y a énormément de résistance, il y a certainement des erreurs. Voilà, mais on ne peut pas, en tout cas, reprocher à Saint-Louis de ne pas avoir poursuivi ce but de façon, continue. C'est véritablement, il vit son serment, il le prend quasiment au pied de la lettre, hein, donc il vit son serment et il place la justice au cœur de son action, à la fois par des édits, différentes réformes, et puis aussi par son intervention. Quand il le faut, notamment vis-à-vis des puissants. Et on a à cet égard une anecdote assez célèbre où il va sanctionner lourdement un grand seigneur, Enguerrand de Coucy, qui est coupable d'avoir fait pendre trois jeunes qui braconnaient dans son bois. Mais à l'époque, les grands féodaux, les grands barons, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Hein. Enfin, le roi n'avait pas à intervenir dans leurs affaires intérieures. Louis va intervenir. Enguerrand de Coucy va être enfermé au Louvre. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais pour un grand baron de l'époque, il se retrouve comme un malfrat, un vulgaire malfrat. Vous avez une levée de boucliers, évidemment, de tous les grands barons qui se disent « c'est peut-être moi demain ». Et donc, ils vont faire pression auprès du roi pour qu'il soit libéré. Et Enguerrand de Coucy va sauver sa tête de justesse, mais il va être condamné à de très lourdes peines, et il va véritablement servir d'exemple. Ce souci de la justice, on le retrouve également dans le domaine monétaire et financier. Louis va lutter contre l'usure, comme ses prédécesseurs d'ailleurs. Jacques Le Goff parle du redressement des pratiques usuraires, j'aime bien l'expression, une mesure qui concerne donc à la fois les Juifs mais aussi les Lombards, et les Lombards seront d'ailleurs expulsés du royaume dans les années 1260. Cette réforme de la justice, elle est particulièrement visible également dans le fait qu'il va interdire ce qu'on appelle le jugement de Dieu, l'ordalie, c'est-à-dire le règlement par la violence des différends qui pouvaient opposer les uns et les autres. Et donc, son leitmotiv préféré, c'était « bataille n'est pas voie de droit ». Et c'est à Saint-Louis que l'on doit la présomption d'innocence, le procès avec jugement sur preuve, la possibilité de faire appel. Tout ça, c'est vraiment l'héritage de Saint-Louis. C'est sur cet héritage que nous vivons encore encore aujourd'hui, donc il est quand même bon de le rappeler. Il va également, on parle de miséricorde dans le serment du sacre, il va lancer de grandes enquêtes dans le sud de la France pour réparer les dommages qui ont été causés par la croisade des Albigeois. Voilà, c'est un fait peu connu et qui mérite d'être rappelé, mais il va lancer une politique de réparation, d'indemnité pour tous ceux qui ont eu à subir préjudice pendant cette croisade. Donc c'était vraiment, je pense, un fait aussi qui était à mettre à l'honneur de Saint-Louis et qui illustre de façon très concrète ce souci de justice.
Merci beaucoup François-Régis Le Grier de nous avoir parlé de Saint-Louis pendant cette heure d'émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Saint-Louis, modèle des chefs d'État, aux éditions Via Romana, un livre très facile à lire et très agréable à transporter par son format et sa qualité papier. Et je rappelle que ce livre, vous le publiez à l'occasion du 800e anniversaire du Sacre de Saint-Louis, qui était le 29 novembre 1226. Merci beaucoup, chers auditeurs. À mardi prochain. Au revoir.
Merci.
Vous venez d'entendre Les Mardis de la mémoire, dirigé par Anne Collin, émission préenregistrée le 13 avril 2026 et diffusée pour la première fois mardi 28 avril 2026 de 10h à 11h et réalisée par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.